France Musique.
Bonjour, bonjour à tous, vous écoutez Guitare Guitare, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour explorer le large répertoire de la famille des cordes pincées. Aujourd'hui, on va écouter de l'harpe en solo, de l'harpe en petit ensemble. Faut bien le dire, on imagine souvent l'harpe comme un instrument bien polissé qui trône au milieu d'un salon bourgeois. Un instrument de salon, c'est un point commun ça avec la guitare, mais c'est aussi un instrument qui apporte sa couleur et sa rêverie à l'orchestre et qui peut prendre une place essentielle au sein d'une orchestration. On n'imagine pas, par exemple, la musique de Debussy sans l'harpe. C'est donc un instrument aussi intime que puissant, un instrument aux mille ressources, comme nous l'expliquera Alexandra Luciano, qui sera avec nous au micro en deuxième partie d'émission. Elle avait sorti, juste avant la pandémie, un superbe disque de harpe en solo intitulé Matryoshka, un disque de musique russe sorti sur le label Evidence Classique et sur lequel on va un peu revenir. Et elle nous a préparé une surprise spécialement pour nous que vous découvrirez tout à l'heure. Et en attendant, on se met dans l'ambiance avec ceci. cocktail de cordes pincées en monde de vibrations, de résonances et d'harmoniques. C'est un enregistrement paru chez Deutsche Grammophon. Et c'est le mandoliniste Avia Vital dans une pièce du compositeur américain David Bruce. Écoutez bien l'instrumentation. Mandoline, guitare, harpe, théorbe et clavecin. Toute la famille est là et on entend bien comment au sein d'un petit ensemble, la harpe apporte sa variété de couleurs et de dynamiques.
Sing like you love.
A Simple Song, un extrait de l'incroyable messe de Leonard Bernstein, arrangé pour guitare électrique, harpe, orgue et flûte traversière. Une adaptation où les timbres des différents instruments se mélangent et s'entrelacent comme ça pour créer une matière sonore assez envoûtante dans laquelle la voix d'Anne-Sophie Von Otter vient naturellement se poser. Prélude pour harpe seule de Xenia Erdeli, jouée par notre invité du jour. Bonjour Alexandra Luciano.
Bonjour.
On est ravis de vous avoir à ce micro. Merci. Alors, qui était cette Xenia Erdeli qui a composé ce beau prélude qui ouvre votre disque et qu'on vient d'écouter?
Alors, Xenia Erdeli était une harpiste russe du début 20e, qui était très active et qui a beaucoup contribué en fait au rayonnement de la harpe en Russie, parce que l'école russe n'a rien à envier à l'école française. Enfin, la harpe est très 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 développée et a beaucoup évolué au fil des années là-bas. Xenia Erdeli a écrit beaucoup de choses pour la harpe, pour ses élèves, parce que c'était une professeure très réputée. D'accord. Qui a lancé beaucoup de jeunes harpistes là-bas.
Alors c'est vrai qu'en écoutant votre disque, on a envie de relire Dostoïevski et Pouchkine, on a envie d'aller à l'opéra voir Eugène Onéguin et de finir la soirée au ballet russe. Il y a ce caractère un peu comme ça tourbillonnant et envoûtant dans votre jeu qui sert vraiment bien cette musique. Ça vous vient d'où cet amour de l'âme russe?
Alors c'est vrai que la musique russe est très particulière parce que c'est un mélange vraiment subtil entre mélancolie, nostalgie et donc pour un premier disque solo, c'était un peu une évidence parce que donc la musique russe est caractérisée par ce mélange de musique populaire et de musique savante. Et donc c'est un peu un résumé de mon enfance parce que donc moi j'ai été bercée par les ballets russes par ma mère qui était passionnée de danse classique. D'accord. Et de l'autre côté de musique de l'Est par mon père qui est donc un réfugié roumain du régime de Ceausescu. Et donc voilà, pour un premier disque solo, c'était un peu une manière de rendre hommage à mon enfance et à travers ça à mes parents. D'accord. Qui m'ont tellement soutenue, etc. Et aussi de célébrer un répertoire que j'aime beaucoup et dans lequel je me retrouve. Parce que oui, on peut sans doute discerner peut-être un peu un portrait de moi à travers certains lyrismes, mélancolie, une exaltation, enfin, voilà.
Dans le livret, il y a aussi beaucoup d'extraits de bouquins, de la littérature, c'est très présent. C'est quelque chose qui vous aide aussi à interpréter, qui vous inspire.
En tout cas, la musique russe est caractérisée par du coup cette espèce de paradoxe très romantique qui est que c'est comme rire et pleurer en même temps. Et donc ça a nourri les plus belles pages de la littérature russe, donc c'est pour ça que c'était un peu une évidence de le célébrer aussi. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup la littérature et la poésie. Quand je crée des projets en général, j'aime bien y mettre tout ce que j'aime, comme un gâteau avec les ingrédients qu'on préfère. Donc, et puis j'aime aussi cette idée de de mettre les choses en perspective.
Une larme de Modeste Moussorski dans une version pour harpe, un extrait du disque Matrioshka de notre invitée Alexandra Louis-Tchéanou. C'est vous qui avez fait la transcription?
Oui, oui.
C'est très très beau et avec ce dernier accord, on se dit que tout n'est pas perdu.
Oui, une lueur d'espoir.
C'est ça. Dans cette stress. Et alors, est-ce que c'est comme pour la guitare, la transcription, est-ce que c'est une part importante de votre répertoire?
Le répertoire pour harpe est en grande majorité constitué d'œuvres écrites par des harpistes. Pour des harpistes, donc pour, parce que souvent c'était des professeurs qui écrivaient pour leurs élèves, donc il y a beaucoup de ça. Mais c'est vrai que moi, la démarche de transcription, c'est pas du tout une démarche de consolation ou quoi que ce soit, c'est vraiment une. Ça fait partie de mon. Une démarche de création, de mon identité un peu artistique. J'aime beaucoup ne pas me mettre de limites, quoi. Donc on a la chance d'avoir un instrument polyphonique, donc tout est possible. On peut prendre des partitions pour piano, pour guitare, pour tout ce qu'on veut, tout est vraiment possible. Moi, j'aime en tout cas garder en tête que l'instrument, c'est vraiment qu'un instrument au sens propre du terme. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment ce qu'on va dire, enfin, la musique, quoi, en elle-même. Donc, je n'ai pas l'harpe comme étendard. Enfin, c'est vraiment un moyen pour accéder à du beau.
La transcription, ça permet aussi que le répertoire soit proche des interprètes.
Oui,
alors, est-ce que c'est un mouvement, enfin, c'est quelque chose qui se fait beaucoup aujourd'hui chez les harpistes aussi? Parce qu'en guitare, par exemple, on transcrit énormément.
Oui, il me semble que c'est quelque chose qui est assez répandu. Oui.
Et est-ce qu'on compose beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup de créations?
Il y en a, alors beaucoup, jamais assez, mais oui, non, il y en a. L'harpe intéresse beaucoup les compositeurs. Oui, j'ai le plaisir de faire des petites créations. Non,
c'est quelque chose qui vous intéresse, de prendre part aux créations?
Oui, complètement. Ouais. C'est important, de toute façon, de faire partie de son temps et de participer à cette évolution.
Alors, Alexandra Luiciano, vous nous avez enregistré une surprise que je pense les auditeurs fidèles de cette émission reconnaîtront. On va l'écouter tout de suite et puis on en parle après. Connu, c'était le troisième mouvement de la cathédrale d'Augustine Baris Mangoré, joué à la harpe par notre invitée Alexandra Luiciano. Alors merci beaucoup d'avoir fait cette interprétation. Pourquoi avoir choisi cette pièce?
J'aime bien l'idée aussi de montrer l'harpe là où on l'attend pas trop, donc en choisissant des morceaux très connus pour certains instruments et un petit peu voir ce que ça pourrait donner. Et puis c'est vrai que la harpe a des clichés qui ont la vie dure. Cette image d'un instrument de salon, de douceur, de sentiments très éthérés, alors que ça peut ne pas être le cas et ça ne l'est pas forcément. Et puis l'art peut être très moderne, elle peut être, Il faut avoir de la force pour jouer, ce n'est pas qu'un instrument féminin. Enfin, voilà, il y a plein d'images qu'on associe encore à l'harpe et qui ne sont pas forcément vraies et que j'aime bien essayer un peu de bousculer à ma manière. Soit avec des choix de transcription, soit avec des choix promotionnels, des vidéos où je montre l'harpe un peu dans des situations inhabituelles, dans des lieux un peu différents.
Vous avez répondu au cliché que je disais au début de cette émission exprès pour vous taquiner. Alors quel est votre rapport avec la guitare et avec son répertoire? C'est deux mondes qui se rencontrent pas assez finalement.
C'est vrai. Il y a peu de morceaux écrits de toute façon pour ces deux instruments en duo. Moi j'aime bien cette idée que la guitare et l'harpe, au premier abord, ça pourrait être deux instruments complètement opposés, un miroir presque inversé. Parce qu'on a d'un côté la guitare qui est tellement populaire, que tout le monde aime, qui est polyvalente, qu'on peut amener partout, qui rassemble les gens, qui crée une intimité. On joue au coin du feu. Enfin voilà, il y a ce truc vraiment très populaire chez la guitare. Et de l'autre côté, à tort, bien sûr, la harpe qui est un instrument si énorme avec ses cordes à n'en plus finir, qu'on imagine voilà, dans des salons aux dorures au plafond, etc., etc. Et en fait, donc voilà, on pourrait se dire que ce sont deux instruments qui n'ont rien à voir, mais ils sont liés tous les deux par un dénominateur commun qui est vraiment important, c'est le toucher. C'est un peu les seuls instruments où l'interprète est vraiment, a vraiment le contact direct avec la vibration, donc avec la musique, aucun rempart. On fait vibrer l'instrument avec notre chair, donc il y a quelque chose de très charnel dans ces deux instruments qui les réunit et que je trouve vraiment intéressant.
Une complémentarité.
Ouais. Exactement.
Alors quels sont les futurs projets que vous avez sur le feu? Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Alors, en nous parlant de guitare et de harpe, nous avons créé avec Nawal et Simon Charbonnel un festival de guitare et de harpe, justement, en février prochain, donc les 25, 26 et 27, à Abbeville. Donc, ça va être trois jours pleins de surprises avec donc, des artistes comme donc, à la guitare, il y aura Thibaut Garcia, Samuel Ito. À la harpe, Valeria Kafelnikov, Nicolas Cadoré et son groupe d'Escofar. Donc, on a choisi voilà, plein de choses très variées. Il y aura des ateliers même de lutherie, des masterclass, des concerts. Okay. Voilà, ça va être la folie totale.
Lieu, tout ça.
À Abbeville, donc 25, 26, 27 février.
Ok. Merci beaucoup, Alexandra Lucianou, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se quitte avec un dernier extrait de votre disque Matryoshka, paru sur Evidence Classique, le prélude en ut, écrit pour la harpe par Sergueï Prokofiev. Thank you. La harpe d'Alexandra Louitchanou dans ce prélude de Prokofiev pour terminer ce nouvel épisode de Guitare Guitare. La semaine prochaine, on commence le mois de la partition. On jouera, on disséquera, on s'inspirera avec la célèbre Fantasia Ludovico d'Alonso Mudara. Merci beaucoup à vous tous d'être à l'écoute de cette émission que j'ai réalisée avec Patrick Lérissé, Annie Comier et Julien Douminc à la technique. On se retrouve quand vous voulez sur le site de France Musique pour s'écrire, pour échanger, pour correspondre ou sur l'appli Radio France pour écouter tous nos podcasts.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Et à 13h sur France Musique, c'est l'heure de retrouver Thierry Jousse.
À réécouter sur francemusique.fr.